Ici, Londres. Voici notre 9e bulletin d'information. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Vous voyez, je n'ai pas tout perdu encore. J'ai 87 ans. Je me rappelle beaucoup de choses encore. Hein.
C'est bien que vous veniez leur dire.
Ben, il a passé quelque temps qu'on n'en parlait pas, vous savez. On a passé une période vraiment où...
Mon propre grand-père, je lui ai demandé, il ne veut pas m'en parler.
Oui. Non. Je crois qu'il y a eu des périodes où on ne pouvait pas en parler. Elle n'en a pas parlé même à mes enfants, mais après, plus tard. Parce que j'osais pas. Parce que j'osais pas.
Moi, je remercie d'être venu parce que au moins on apprend des choses sur la guerre avant qu'il n'y ait plus personne qui
a participé
à la guerre.
Il n'y en a bientôt plus personne pour en parler, c'est vrai. Qu'est-ce que je voudrais leur dire? Il faut quand même, quelquefois, vous savez, désobéir, quelquefois, c'est pas interdit de désobéir, quelquefois. On désobéissait pendant la guerre. Quelquefois, il faut désobéir quand on sent que c'est pas du tout ça, que ça ne correspond pas à ce qu'il faudrait qu'il se passe. Voilà, quelquefois, on peut désobéir. Mais pour des bonnes causes, quand même. Hein.
Vous savez, l'histoire n'est jamais écrite, hein. Nous, on avait 20 ans, vous savez, on ne connaissait pas tous les dessous du maquis, tout ce qui se passait à l'intérieur, même chez nous, vous voyez. C'est-à-dire, on dit que l'histoire n'est jamais écrite, elle ressurgit petit à petit, vous voyez.
Allez, on attaque le rock des Mirabel, les partisans de Mirabel, les maquisards.
Raconte-moi la résistance et le maquis de Prévinquière. Un documentaire sonore du Centre culturel Aveyron-Ségalavior. Rencontre entre les jeunes des écoles et collèges de la communauté de communes et les anciens qui ont vécu cette époque.
Quand on est jeune, qu'on a 17 ou 20 ans, et qu'on devient hors-la-loi, qu'on se heurte, et qu'on refuse le gouvernement et les décrets et la réglementation gouvernementale du pays, ça devient dangereux, évidemment. Mais on est mis sur la touche de la société à ce moment-là.
Moi, j'avais 18 ans à l'époque. 18 ans, je ne connaissais que dalle. Il faut bien le dire. Hein. Qu'est-ce que je connaissais? Je savais qu'est-ce que c'était les Allemands, je savais qu'est-ce que c'était les Américains. Mais après, à côté de ça, on n'avait rien, aucune nouvelle. Aucune nouvelle, c'est le cas de dire. La radio, si je voulais écouter la radio, il fallait aller chez les voisins. Pas question d'avoir un journal. Alors, tout ce qu'on savait, on le savait de bouche à oreille, de tout ça. Mais enfin, c'est pas pour ça que je suis parti au maquis. Il y avait un peu aussi l'aventure, ça, il faut bien le dire. On avait envie de voir autre chose.
La guerre a commencé en 1939 et a fini en 1945. En 1940, la France a perdu la guerre contre les Allemands et il s'est formé un gouvernement qu'on appelait le gouvernement de Vichy. Mais certains Français n'acceptaient pas la défaite. Il s'est formé, grâce notamment à Jean Moulin, des mouvements de résistance qui se battaient dans l'ombre contre les Allemands.
Quel âge avez-vous pendant la Seconde Guerre mondiale?
Ah bon, alors, quand la guerre mondiale a commencé, j'avais 17 ans, et à la fin de la guerre, j'avais 22 ans.
Lorsque je suis rentré à la résistance, j'étais employé à ce moment-là au chemin de fer.
Mais à l'époque, quel âge j'avais?
À l'époque, j'avais 20 ans, 40.
Eh bien oui, oui.
Non, 18 ans. 18 ans.
Oui, 18 ans.
Oui.
Personnellement, comment vous êtes rentré dans la résistance?
Ah, alors là,
il vous faut parler de cette génération, qui était notre génération. Elle a été confrontée à pas mal de problèmes quand même, et à pas mal d'observations. Vous savez, nous on était ici au collège de Repérou, le vieux bâtiment qu'il y avait là-bas, de l'autre côté, il y avait comme bâtiment, c'était pas important comme maintenant. On a connu d'abord la guerre d'Espagne, qui était une guerre civile assez épouvantable là-bas, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés espagnols qui ont atterri à Casville, dans le bassin Ouillé. Ils sont restés encore, ils ont fondé des foyers là-bas. Bon, on a vécu cette guerre d'Espagne. On était au collège, on avait des professeurs comme M. Debar ou Coustol, tout ça, qui étaient imprégnés de cette histoire-là, de ce constat aussi, eux. Et qui n'étaient pas loin de nous inculquer ce besoin de comprendre comment il fallait aider ces populations et ces gens qui étaient malheureux, qui ne savaient pas où aller. Alors, on a été imprégnés de ce truc-là. On a été imprégnés par nos pères, souvent, qui avaient fait la guerre de 14. 1, 2, 3, 4 ans de tranchées, c'était un enfer à ce moment-là. On n'en parle plus maintenant, parce que ça devient un peu vieillot, maintenant, cette affaire-là. On avait entendu les malheurs de la guerre de 14-18. Et puis, il est arrivé ce coup de Trafalgar, de la guerre éclair de 39, avec un écrasement total de l'armée française, qu'on croyait costaud, et une première du monde, et finalement, ça a été une guerre qui a duré un mois, et ça a été vite replié. Et ensuite, l'armistice, qui a tout écrabouillé, alors, tout ce qui restait. Elle a venu au pouvoir de cet homme-là, qu'on a présenté comme le seul sauveur qu'on était capable de trouver à ce moment-là. Et il est resté, même jusqu'en 44. On a respecté un peu ce maréchal, ce vieillard, sans trop chercher quelles étaient ses arrière-pensées ou ce qu'il avait accepté de faire, volontairement ou malgré lui. Voilà. Alors, tous ces événements-là ont fait qu'on était un peu bousculé et un peu dirigé vers une résistance et un refus et un recul.
Moi, j'avais déjà basculé, vous voyez, au moment que je me rappelle, quand le cardinal Marty, le curé de Rieux-Péronne, nous donnait ces fameux témoignages chrétiens. Il y avait aussi Nouvelle Aurore, il y avait Combat, il y avait un tas de journaux clandestins, vous voyez, journaux clandestins. Et moi, je me rappelle que c'est le curé Marty qui nous avait un petit peu éveillé, vous voyez, à cette résistance à l'occupation allemande. Et puis également, moi, j'avais René Fabre, là, c'était mon plus proche voisin. Il me disait toujours, ne rentre pas encore au maquis, c'est pas encore bien organisé ou autre, le jour où on sera organisé, je te le dirai.
Avant de parler du maquis, je pense qu'il faut se remettre en mémoire ce qu'a été cette époque. Je vais remonter à l'armistice de 1940 et savoir dans quel état la France se trouvait à ce moment-là. Après l'armistice du 17 juin, la France a été coupée en zones occupées et zones libres, avec une ligne de démarcation. Cette ligne de démarcation a eu, de 40 à 42, une très grande importance. D'un côté, donc en zone dite libre, non occupée, faudrait mieux dire, c'était celle de Pétain, avec le régime de Vichy, et le reste était en zone occupée. J'ai pu naviguer entre les deux à l'époque. J'ai quitté la zone non occupée pour rentrer en zone occupée. Et j'ai traversé la ligne de démarcation. J'étais pas très grand, mais j'en ai quand même un souvenir. Alors je venais ici de la Capelle pour rentrer à Paris, et sur les coups de 3 heures du matin, on est arrivé à Vierzon. Et sur les quais, on attendait, évidemment, un vocabulaire qui était tout à fait étranger à mes oreilles. Des « Hartun, Arbit », etc. Et à l'époque, on m'avait cousu des lettres qu'on devait faire passer en zone occupée. Mais enfin, vous voyez à quel point déjà on vivait sous la pression de l'occupant. De 40 à 42, donc, on a vécu les deux séparés, avec des allées et venues entre les zones très contrôlées. Et en zone dite libre, s'étaient réfugiés des gens qui avaient été poursuivis dès avant la guerre. C'était souvent des apatrides qui avaient résisté en Allemagne aux Allemands, qui quelques-uns étaient des Allemands, des Polonais. Il y avait également des gens qui étaient poursuivis, c'était des républicains espagnols. Vous voyez, cette population-là ne savait plus où vivre hein, à cette époque. Et on les retrouvera, pour quelques-uns d'entre eux, dans les maquis.
Il y a eu la France coupée en deux, non ? Les gens qui sont arrivés de la France occupée.
Oui, oui.
Alors, on a eu des gens du Nord, des gens de l'Alsace, on a eu beaucoup de Belges même, il y a des Belges qui sont venus de l'Est, il y a des gens de l'Est. Ils sont arrivés et pour nous, ça a été quand même quelque chose de très nouveau puisqu'on n'était jamais sortis. On était dans notre coin de pays. On n'était pas comme maintenant. Hein. Dans le village, on restait dans nos villages. Donc, arrivaient des gens de l'extérieur, des gens qui avaient notre âge, qui avaient 18 ans comme nous, 20, mais qui n'avaient pas une approche de la vie comme nous. Ils nous apportaient un peu de leurs connaissances, de leur façon de vivre. Et c'était pas la même chose que nous, quoi. Ça nous faisait du monde à voir. Mais en même temps, il y avait la guerre, bien sûr. J'ai travaillé à Paris, il n'y avait pas longtemps que la guerre était finie. J'avais connu beaucoup de personnes qui avaient souffert de la faim. Ils racontaient ces choses-là. Et l'exode. Moi, j'avais des collègues qui me racontaient l'exode de Paris, qui ont tout abandonné, qui sont partis. Mais tout ça, nous, ici, non, on n'avait pas vécu.
La première résistance qu'il y a eu, de toute façon, c'est un peu l'Assemblée nationale qui en a été au départ. Parce que quand Pétain est arrivé au pouvoir, il n'a pas pu prendre le pouvoir sans avoir l'aval des assemblées, Sénat et Assemblée nationale, lui donnant le quitus pour pouvoir prendre le pouvoir. Et ça s'appelle, à ce moment-là, demander les pleins pouvoirs. Et ils ont voté. Et il y a eu 500 et quelques oui pour le lui donner. Il y a eu des abstentions. Quelques abstentions, il y a eu 80 non. Dans l'Aveyron, ici, il y en a un qui a refusé, c'était Ramadier, qui était député de Cazeville, alors que les 5 ou 6 autres députés ou sénateurs ont tous voté oui, sauf un, Bastide, qui s'est abstenu. Dans l'Aveyron, ils étaient 6. Alors là c'est un premier acte de résistance, ça a commencé là, en 40. Au départ, l'État français, c'était plus la République française. Je vous ferai voir tout à l'heure, si vous voulez le voir, la glissade qu'il y a eu entre la République française et l'État français. Le triptyque liberté, égalité, fraternité, remplacé petit à petit par travail, famille et patrie. Et tout ça, ça s'est passé en quelques mois, en quelques années, assez rapidement. Est arrivé à la constitution de ce qu'on appelait la milice française. Là, c'était encore le plus grave. On embauchait des Français pour non seulement faire la police et garder le calme ou rétablir le calme là où il n'était pas, mais pour attaquer les résistants et tous ceux qui ne respectaient pas les règlements de l'État à ce moment-là pour emprisonner tous ceux qui étaient rétifs quant à la marche de cette révolution nationale.
Combien de temps la résistance a-t-elle duré ?
Pour moi, elle a duré depuis le début 1944 jusqu'au mois d'août 1944. Alors, ce qui fait en gros un an pour moi. Mais il y a la résistance, elle a été effective pour beaucoup de gens de façon individuelle parce qu'ils avaient conscience du malheur qui accablait la France et ils s'étaient mis en devoir de créer d'abord le plus de gêne possible à l'ennemi. Et il y en a eu de la résistance. Il y en a eu dès que les troupes allemandes sont rentrées sur le sol français. Vous voyez, la résistance, ça n'a pas été quelque chose qui est parti un même jour dans tout le pays. Il y a des régions, même par chez nous en Aveyron, là, il y a des gens qui ne se sont pas aperçus que la résistance existait.
Est-ce que vous avez aidé à résister ?
En 1942, j'ai transporté, j'ai communiqué, parce que j'étais institutrice de Cazeville, j'ai transporté des lettres à M. Ramadier. M. Ramadier était un député de l'Aveyron qui n'avait pas voulu donner les pleins pouvoirs à Pétain, donc, et qui était assigné à rester à sa maison et ne pas bouger. Donc, si les gens voulaient communiquer avec lui, il fallait qu'on transporte des lettres clandestinement. Voilà. C'est-à-dire que les lettres ne passent pas par la poste. Ça, c'est une chose que j'ai faite naturellement, sans penser à voilà, comme oui, ça.
Comment était la vie pendant l'occupation de la France ?
Ah, comment était la vie ? Oh, tu sais, c'était compliqué tout ça. Hein. Bon, la vie était difficile. Difficile dans les villes. On n'avait pas suffisamment à manger. Vous savez qu'il y avait des cartes d'alimentation. Vous en parlerez avec vos grands-pères, ils vous parleront. Il n'y avait plus les choses essentielles. Parce que les Allemands, qui prenaient tout ce qu'il y avait dans le pays. Par exemple, ici, dans les campagnes, il fallait amener les vaches, les veaux, les cochons au ravitaillement. Ils prenaient du blé. Ils prenaient la paille même, tout ce qu'il leur fallait, ils le transportaient en Allemagne pour leurs armées. Donc, il ne restait pas grand-chose à manger. Donc, dans les villes, ils étaient très ennuyés. Ici, à l'Escure-Raoul ou à la Salvata, on a toujours bien mangé. Parce que, à la place de vendre les cochons, à la place de les amener au ravitaillement, ils les tuaient à la maison. Vous comprenez ? Ils avaient de quoi manger. On cultivait, il y avait de quoi manger dans les campagnes.
Quel métier faisiez-vous pendant la guerre ?
On travaillait la terre. Ah, oui. On était fils d'agriculteurs, et alors on travaillait la terre.
Les Allemands venaient chercher chez nous à manger, faisaient de la réquisition.
Le gouvernement de Vichy avait instauré des chefs de district. Ces chefs de district étaient à la merci des Allemands. Et alors, ils venaient dans les fermes.
On te réquisitionnait du blé, tu étais obligé de donner de la farine.
La maman de ma mamie avait une carte d'alimentation pour aller chercher à l'épicerie quelques aliments. Le sucre, café, des pâtes, etc.
Alors, il arrivait quelquefois que les gens de la ville venaient se ravitailler à la campagne, chercher ce qu'il fallait. Ils venaient chercher du lard, ils venaient chercher de la saucisse, ils venaient chercher des pommes de terre, ils venaient chercher tout ce qu'il fallait. Et surtout les gens du midi, parce que là-bas, ils n'avaient que du vin. Alors, et pour manger. Alors, ils transportaient un peu de vin, et puis on leur donnait du lard, ou on leur donnait des œufs, on leur vendait. Pas trop cher, pas trop cher. Quelquefois, il y en a qui abusaient un petit peu, qui le vendaient un peu plus cher. Et on appelait ça le marché noir.
Est-ce que vous étiez pauvre ?
Je ne sais pas comment vous expliquer. On n'était pas pauvre. Je ne sais pas comment. On n'avait pas tout ce qu'on voulait, bien sûr. Hein. Bon, par exemple, pour trouver une bicyclette, c'était très difficile. Et alors, quand il fallait changer les pneus, tu sais, on n'avait pas de pneus. Alors, il y avait des gens qui faisaient une espèce de rouleau, tu sais, avec du tissu pour marcher en bicyclette. Les camions et les autobus, il n'y avait pas d'essence. Alors, ils faisaient ce qu'on appelait le gazogène. C'est-à-dire qu'ils mettaient du bois, qu'ils allumaient, et ça faisait l'énergie nécessaire pour faire marcher le camion. Alors, il y avait par exemple un autobus de Rieux-Pérou. Eh bien, pour monter la côte du port de la Besse, il n'allait pas plus vite que si on marchait à pied. Alors, les gens, quand ils allaient à Carmaux, qui voulaient prendre l'autobus, alors les jeunes, ils marchaient à pied sur la côte de Mirandol. Ils étaient aussi vite à Mirandol que l'autobus avec son gazogène. Je l'ai vu, ça. Avec le gazogène, oui. Alors, les autobus étaient chargés au possible, parce qu'il y avait toujours des gens qui venaient chercher du ravitaillement et qui mettaient des sacs de pommes de terre et des sacs de ceci. Et de temps en temps, à la descente de l'autobus ou tout ça, ou quelqu'un qui avait dénoncé, il y avait les gendarmes ou la police qui reprenaient les sacs de pommes de terre qu'ils étaient venus chercher bien loin, jusqu'ici. C'était pas facile, hein. parce qu'on était surveillés de partout. On ne pouvait pas faire n'importe quoi, il ne fallait pas trop parler, il ne fallait pas trop raconter. On était toujours surveillés.
Ah ben oui, Raoul Berthaud a été déporté.
Mais c'est le seul qu'on a connu vraiment.
Et qu'on a connu vraiment, oui.
C'était qui?
C'était un résistant, un jeune qui était à la Salvetat, qui a été vendu, je ne sais pas comment. Bonjour, le gendarme.
Il ne venait pas de Nantes, de quelque chose comme ça, il venait.
Eh bien, il avait
été. Un jeune qui était venu à la Salvetat pour se mettre à l'abri.
Oui, oui.
Voilà, qui a été dénoncé après.
Par il la a été dénoncé, on l'a pris.
Il a été en camp de concentration, je crois.
Oui, oui. Mm-hmm.
Où était organisée la résistance?
La résistance s'est organisée sur place, dans nos villages.
Quand il y avait deux bonhommes qui n'étaient pas contents de l'affaire, ben, ils en parlaient. Puis on en parlait avec un troisième. On réussissait toujours à avoir des oreilles favorables à ces petites discussions de quartier ou de famille, tout ça, à droite ou à gauche. Alors ça formait des petits groupes complètement désorganisés quand même, parce que la résistance au départ n'a pas été organisée. Et alors, petit à petit, ces gens-là ont trouvé des oreilles favorables à la discussion, au groupement. Et ça s'est formé. On a formé des fois des groupes politiques. Les communistes d'un côté, les socialistes, les modérateurs, etc. Des groupes dans l'éducation nationale. On a appelé ça le NAP, le noyautage des administrations publiques, avec des gens volontaires comme ça, qu'on a glissé petit à petit dans les administrations, dans les PTT, dans l'enseignement, dans les chemins de fer, dans toutes les branches de l'activité ordinaire dans la société. Alors, on a essayé de lancer des antennes un peu partout pour avoir des oreilles favorables qui écoutent ce rejet et ce recul devant la mise en place de la révolution nationale de Pétain.